30, 14h.
Raphaël Duchemin sur Europe 1.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous retrouver comme chaque jour sur Europe 1. On a une heure et demie à passer ensemble avec vous, Anissa, bonjour.
Bonjour Raphaël, bonjour à tous.
Dans une minute, c'est votre journal avec Pierre de Villeneuve. Et juste après, on fait bouger la France. Vous savez que le gouvernement veut favoriser la rénovation thermique. Alors on a voulu savoir ce qui existait vraiment sur le marché français pour que ça ne nous ruine pas. Et on a trouvé, c'est ça, la France qui bouge. À tout de suite sur Europe 1.
Il est midi et demi. Le journal de la mi-journée sur Europe 1, Pierre de Villeneuve, Raphaël Duchemin.
Bonjour Pierre.
Bonjour Raphaël, bonjour à tous.
C'est le grand jour pour Emmanuel Macron. Le président va au contact des Français.
Oui, déplacement à Grand-Bourg-Terroulde. Nous entendrons le chef de l'État dans un petit instant et nous rejoindrons nos reporters sur place, sachant qu'Emmanuel Vargon, celle qui copilote ce débat, a assuré de son indépendance ce matin sur Europe 1. L'autre grand titre de l'actualité, c'est le patron de Nissan qui parle au micro de Nicolas Barré, l'éditorialiste d'Europe 1. Et patron de la rédaction des Échos. Il l'a interviewé en exclusivité, vous l'entendrez. Dans ce journal également, pour la première fois, Mehdi Nemouche va parler devant le tribunal en Belgique. Les Britanniques suspendus au vote sur le Brexit. L'histoire insensée et effroyable d'un enfant de 2 ans et demi pris au piège dans un puits de plus de 100 mètres de profondeur. Et puis c'est rare de l'entendre, Thiago Silva, le capitaine du PSG, se confie à Nikos Aliagas. La météo, Elena Morna, nuages au nord, beau au sud.
Et bien compact hein, les nuages sur le nord de la Loire. Peut-être une ou deux éclaircies entre le Poitou-Charentes et la Bourgogne. Éclaircies plus franches sur la Franche-Comté et l'Alsace cet après-midi. Ciel bleu plus au sud, quoique du brouillard coriace sur le Pays Basque.
Merci Elena. Rendez-vous tout à l'heure. Ce sera juste avant 14h sur Europe 1.
Europe 1.
C'est donc, je le disais Pierre, le grand jour aujourd'hui pour le président Emmanuel Macron va au contact des Français.
Et la destination choisie est Grand-Bourg-Terroulde. Dans l'heure, le chef de l'État va entamer la discussion avec plus de 600 maires normands. C'est donc toute une région qui s'est préparée. Jean-Gabriel Bourgeois, vous êtes sur place. Est-ce qu'on est prêt pour accueillir le président ?
Oui, et ils sont là pour certains depuis 6 heures ce matin, venus de Lisieux, de Rouen, de Dieppe ou encore d'Amiens. Et ça continue d'affluer aux entrées de la ville, à présent gardées par des barrières montées par les forces de l'ordre. Alors les plus de 300 personnes qui se trouvent ici ne portent pas de gilet jaune. Ils sont massés devant le panneau Grand-Bourg-Terroulde, car il est impossible d'entrer dans le village. À une dizaine de kilomètres à la ronde, les policiers et les gendarmes fouillent les véhicules. Et même Michel, qui vient du village voisin à vélo chaque matin, s'est cassé les dents.
Je suis bloqué parce que je voulais aller chercher mon pain ce matin, comme tous les matins, et on me l'interdit, malgré que j'ai mes papiers, mon sac est vide, et j'ai pas le droit de manger de pain aujourd'hui.
Pas de pain donc, mais on distribue du café autour du rond-point où je me trouve en attendant qu'Emmanuel Macron arrive. Certains manifestants comme Jean-Luc, qui vient du Neubourg tout près d'ici, a du mal à comprendre l'intérêt du grand débat.
On ne comprend pas trop, franchement, parce que les maires, il y a très longtemps, qui remontent des problèmes à leurs députés, que les députés essayent de remonter les problèmes au président. Et jusque-là, je crois qu'il n'est jamais entendu. Mais d'un seul coup, notre roi de France dit « Ah tiens, je vais peut-être écouter quelque chose ». Au bout de 9 semaines de combat, de manifestation, je trouve que c'est dommage, quoi.
Voilà, alors on vient d'apprendre qu'une délégation de Gilets jaunes va être reçue dans quelques minutes à la mairie par Emmanuel Vargon, la ministre chargée d'animer le débat. Un signal très fort me confie les Gilets jaunes qui vont pouvoir porter directement leurs revendications.
Merci Jean-Gabriel Bourgeois, envoyé spécial d'Europe 1 au Grand-Bourg-Terroulde dans l'heure. Emmanuel Macron qui devrait normalement s'exprimer dans les minutes qui viennent, mais pour l'instant... pas de signe de vie de ce côté-là, Raphaël.
Alors voyons, en attendant, l'enjeu politique de ce déplacement, Pierre, avec Jean-Rémy Baudot du service politique d'Europe 1.
Le maître mot de la journée, c'est l'écoute, explique un membre du premier cercle du président. Aujourd'hui dans l'heure, Emmanuel Macron devrait donc surtout écouter. Après une courte introduction, le chef de l'État laissera la parole aux maires pour entendre leurs doléances. Il ne sera pas là pour répondre, glisse l'Élysée, qui précise d'ailleurs s'attendre à ce que le rendez-vous dure un long moment. Pour preuve, le président n'a rien d'autre à son agenda cet après-midi. Pour l'Élysée, cette première réunion avec quelques 600 maires est un test grandeur nature de ce que ce débat peut donner. Un moment d'échange où aucun sujet ne sera interdit. Il faut que ce premier débat renvoie un signal positif pour que les Français aient envie d'y participer ou d'en organiser à côté de chez eux. Épaulé par une poignée de ministres, au premier rang desquels Sébastien Lecornu qui mènera la séance, le président tentera de rectifier deux images qui lui collent à la peau. Celle d'un président qui aurait méprisé les maires depuis 18 mois et celle d'un président qui ne serait pas écouté.
Jean-Rémy Baudot du service politique d'Europe 1, Sébastien Lecornu, ministre des collectivités territoriales, qui avec Emmanuel Wargon, la secrétaire d'État à l'écologie, copilote ce grand débat national. Cette dernière, invitée ce matin d'Europe 1, a bien voulu préciser une chose, ce n'est pas parce que ce sont deux ministres qui pilotent le sujet que l'indépendance n'est pas assurée.
Je suis d'accord pour dire que le grand débat ne peut pas être placé sous le contrôle de ministres ou du gouvernement. Et c'est pas ça que nous faisons. On sépare deux rôles. Tout ce qui est garantie, neutralité, impartialité, qualité de la restitution est placé sous le contrôle de garants. Et puis Sébastien Lecornu et moi, nous sommes en charge à la fois de l'organisation opérationnelle, mais un peu comme l'État quand il organise des élections, et aussi la mobilisation de tous, parce que l'un des enjeux, c'est que les Français participent à ce débat.
Emmanuel Wargon, invité d'Audrey Crespo-Mara ce matin sur Europe 1.
Et dans le cadre de ce grand débat, Pierre, Emmanuel Macron a envoyé sa fameuse lettre.
Ouais, et selon nos informations, nous sommes en mesure de vous dire qu'elle est finalement envoyée par courrier postal. Au début, elle devait figurer par voie de presse. Un hasard, elle s'adresse désormais à 67 millions de Français. Oui, l'INSEE le confirme pas plus tard qu'il y a une heure. Nous venons de passer la barre des 67 millions de Français, même si la natalité continue de baisser. Alors cette lettre, les Français l'ont déjà lue pour certains. Vous êtes allé à Fréjus, Frédéric Michel. Comment est-ce qu'on réagit à ce courrier ?
Les avis sont partagés, mais dans l'ensemble, les personnes que j'ai rencontrées à Fréjus et Saint-Raphaël n'attendaient pas de recevoir dans leur boîte aux lettres une lettre du président.
Comme ça, tout le monde est au courant.
Bon, moi, il y a tout le monde là. Cette lettre, je l'ai lue sur le Figaro. J'ai lu que tous les Français allaient le recevoir à la maison. Je suis un peu indifférent. C'est toujours des palabres.
À mon avis, la première formule me satisfaisait mieux, étant donné que ça faisait moins de frais.
Cette mère de famille se sent déjà parfaitement informée.
On est surmédiatisé déjà. C'est pas nécessaire. Il nous est possible d'avoir le contenu de cette lettre par les journaux, par la télé, par la radio. C'est pas nécessaire.
Alain et Mario sont des gilets jaunes de la première heure. Ils occupent toujours un rond point à la sortie de l'autoroute A8.
Ce que ça va coûter pour rien du tout, quoi. C'est un scandale.
De venir chez les gens comme ça au plus près, il aurait pu le faire avant.
Qui va tout dématérialiser, justement. C'était le bon moment, justement, d'utiliser les médias, l'informatique. Hein. C'est complètement nul de revenir en arrière. C'est un gouvernement qui fait que se contredire, de toute façon.
Et cette lettre devrait mettre quelques jours à arriver dans chaque boîte aux lettres.
Merci Frédéric Michel pour ce reportage à Fréjus. En bref, on vient de l'apprendre, la mission parlementaire sur la loi de bioéthique, dont le rôle est de préparer le débat législatif, préconise d'ouvrir la PMA, la procréation médicalement assistée, aux couples de femmes et aux femmes seules et de se faire rembourser justement ce procédé par la Sécurité sociale. La justice rétropédale sur le glyphosate et annule finalement l'autorisation de mise sur le marché du Roundup Pro 360, ce puissant désherbant, pointant d'ailleurs du doigt l'ANSES que le tribunal accuse d'avoir autorisé à tort. Et puis en Corse, un homme connu des services de police a été tué par balle en pleine rue à Sartène. Apparemment un règlement de compte lié au banditisme.
Il est 12h37. Europe 1.
Une pause, vous restez avec nous bien sûr sur Europe 1. Et dans un instant, Carlos Ghosn et l'avenir de l'alliance Renault-Nissan. A tout de suite.
Il est 12h40 sur Europe 1, la suite du journal avec Pierre de Villeneuve et Raphaël Duchemin.
Et on part pour le Japon, Pierre, où Carlos Ghosn reste en prison.
Mais le tribunal de Tokyo a en effet rejeté ce matin la demande de libération sous caution du patron de Renault. Selon la télé japonaise, la justice aurait peur d'un risque de destruction de preuves. En exclusivité mondiale, Nicolas Barré, le patron de la rédaction des Échos, a pu s'entretenir avec Hiroto Saikawa, le patron de Nissan. Et au micro d'Europe 1, voilà ce que ce dernier lui dit.
Je ne peux pas imaginer l'avenir de Nissan sans alliance. Nous devons travailler pour cela. Nous devons la rendre plus stable et durable. Nous travaillons dur pour cela avec nos partenaires.
Êtes-vous toujours surpris par les révélations concernant Carlos Ghosn ?
Ça a été un grand choc qui n'a pas été facile à digérer. Pour être honnête, cela prend du temps. Mais en tant que compagnie, en tant qu'alliance, nous devons travailler sur l'étape d'après.
Avez-vous un message pour les Français ?
Travaillons ensemble pour l'avenir.
Voilà, entretien exclusif au Japon de Nicolas Barré avec Hiroto Saikawa, le patron de Nissan. Pour Europe 1, l'article est à lire dans les Échos. Emmanuel Dutheil, on vient d'entendre une chose importante. Pour le patron de Nissan, il n'y a pas d'autre avenir qu'avec l'alliance.
Oui, et c'est un signal d'apaisement
très claire envoyée à Paris. Cette alliance, c'est ce qui lie les trois grands constructeurs, Renault, Nissan et Mitsubishi. C'est cette alliance qui définit les partenariats, les liens industriels, les achats en commun, la stratégie. Une alliance mise à mal depuis l'arrestation de Carlos Ghosn. C'est effectivement lui qui l'a façonnée selon son bon vouloir. Il l'incarnait à l'extrême. Mais ça fait des années que côté japonais, on se sent quand même un petit peu lésé dans cette histoire. Le pouvoir est en effet plutôt entre les mains de Renault. C'est par exemple le patron de Renault qui, selon les statuts de l'Alliance, est le patron de l'Alliance. Alors que Nissan est devenu plus gros que Renault, son pouvoir d'influence reste du coup finalement limité. Et c'est ce qui a nourri les rumeurs de complot contre Carlos Ghosn dans cette histoire. Un complot totalement démenti ce matin par le camp Nissan dans les échos. Hiroto Sakawa, le patron de Nissan, qui enfonce le clou en laissant entendre que l'on est peut-être bien loin de tout savoir sur les agissements de Carlos Ghosn.
Merci Emmanuel Dutheil, chef du service économie d'Europe 1. Et dans ce domaine automobile, signalons l'excellente santé du groupe PSA Peugeot Citroën. Record des ventes mondiales en 2018 avec près de 4 millions de véhicules vendus, croissance de 6,8%. Des chiffres qui tiennent compte de la perte du marché iranien, de la chute des ventes en Chine, mais aussi, et ça c'est le point positif, de l'intégration des ventes d'Opel et de Vauxhall. Et puis chez Nokia, on vient d'apprendre la suppression prévue sur cette année et l'année prochaine de 460 postes en France.
Il est 12h43 sur Europe 1, la suite du journal Pierre de Villeneau, Raphaël Duchemin.
Direction Bruxelles maintenant, Pierre, parce que c'est aujourd'hui que le procès de Mehdi Nemmouche entre en quelque sorte dans le vif du sujet.
Oui, puisqu'on va l'entendre pour la première fois. Le djihadiste veut se défendre, il veut donner sa version des faits, de la tuerie de Bruxelles. Pierre de Cossette, vous êtes l'un des envoyés spéciaux d'Europe 1 sur ce procès. Nemmouche parlera cet après-midi, juste après les avocats de la défense qui, Pierre, devraient présenter une thèse complotiste.
Oui, un argumentaire qui glace d'avance le sang des proches des victimes. Malgré les preuves accablantes contre les mouches, ses avocats s'étonnent que sur la multitude d'empreintes retrouvées sur la porte du musée juif ne figure pas celle de l'accusé. Mais surtout que le premier couple de victimes, des touristes israéliens, ait pu travailler de près ou de loin en lien avec les services de renseignement israéliens. Écoutez l'un des avocats de Mehdi Nemmouche, maître Sébastien Courtois, ce matin à son arrivée au tribunal.
Cette histoire de loup solitaire de l'État islamique ne tient pas la route. Cette histoire de l'État islamique qui n'a pas la route non plus, et puis alors trouver avec délectation le sabotage systématique de cette enquête qui est évidemment dû à la personnalité des victimes, dont j'apprends qu'après avoir nié pendant des années qu'ils avaient quelques liens avec le Mossad, maintenant on essaie de nous faire croire une version soft des mensonges précédents. Ce serait toujours comptable, mais quand même du Mossad.
Les avocats de Mehdi Nemmouche liront donc cet après-midi les 18 pages de leur acte de défense. Après, on pourrait donc entendre pour la première fois sur le fond l'accusé. Une audience qui a pris du retard ce matin car la Cour s'est aperçue qu'un des jurés avait été à l'époque greffier de l'un des juges d'instruction. C'était avant les attentats. Il vient d'être récusé.
Merci Pierre de Cossette, envoyé spécial d'Europe 1 à Bruxelles. Après Bruxelles, Londres, puisque ce mardi est également important dans le cadre, le calendrier du Brexit. C'est aujourd'hui que les parlementaires votent. Sébastien Krebs, vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 à Londres. De toute façon, il n'y a aucun suspense puisqu'on sait que l'accord va être rejeté.
Oui, absolument plus personne n'y croit ici. Le seul suspense, c'est quelle sera la violence de la claque, l'ampleur du rejet. En une de la presse, on parle déjà de défaite cinglante et même d'humiliation. Ce vote, il aura lieu tout à l'heure vers 20h, heure française. Et ici, devant le Parlement de Westminster, eh bien, quelques dizaines de militants sont déjà rassemblés avec deux camps, mais alors aucun en faveur de l'accord, et tous les deux vivement opposés à Theresa May, qui est vilipendée, représentée sur le Titanic en train de couler. Vous avez d'un côté des pancartes « Partir, c'est partir », des pro-Brexit qui veulent une sortie coûte que coûte, même sans cet accord. De l'autre, avec des drapeaux européens, des manifestants qui demandent à en finir avec le cirque parlementaire et qui veulent un nouveau référendum. Vous voyez, l'ambiance est en train de monter. Theresa May, elle, a réuni son gouvernement ce matin. Les débats vont reprendre ici cet après-midi. C'est elle qui les conclura juste avant de passer au vote. Sera-t-elle encore Premier ministre demain? Ça, personne ne le sait. L'opposition travailliste envisage en tout cas de déposer une motion de censure potentiellement dès ce soir.
Merci Sébastien Krebs en direct de Londres pour Europe 1.
Et on va continuer notre tour d'Europe. Pierre, il nous emmène à présent en Espagne. Mais pour une histoire effroyable.
Ouais, effroyable, Raphaël, puisqu'il s'agit d'un enfant de 2 ans et demi coincé depuis dimanche dans un puits de plus de 100 mètres de profondeur et seulement de 25 centimètres de diamètre. C'est plus un puits, c'est un trou dans la terre. Ça se passe en Andalousie, à Totalán. Henri de Laguerry, vous êtes le correspondant d'Europe 1 en Espagne. Et c'est une course contre la montre qui s'est engagée avec les secouristes.
Oui, cela fait près de 45 heures que Yulen est au fond de ce puits. Pour vous donner une idée, le trou est à peine plus large que la taille d'une main d'un adulte avec les doigts écartés. Le jeune garçon est tombé alors qu'il jouait dans la propriété de ses parents dans une zone montagneuse. Et les services de secours ont tenté de le localiser en introduisant une sonde et des caméras dans le puits. Mais le terrain est humide, instable, il y a eu des éboulements et le trou s'est bouché à 70 mètres de profondeur jusqu'ici. Seul un sachet de bonbons et un gobelet que tenait Yulen ont été retrouvés. Ce matin, les sauveteurs ont commencé à percer un deuxième puits. Écoutez les explications de Maria Gámez, la déléguée du gouvernement à Malaga.
Depuis 7 heures ce matin, nous sommes en train de travailler pour ouvrir un tunnel latéral puis horizontal. Ça nous permettrait, en profitant de la pente, d'accéder de façon latérale à une profondeur de 80 mètres. C'est là que doit être le petit Yulen.
Voilà, et c'est tout un pays qui suit en direct cette opération de sauvetage. Plusieurs entreprises espagnoles ont proposé leurs services. Le chef du gouvernement garde, je cite, « l'espoir d'un dénouement heureux ». Mais les chances de retrouver l'enfant en vie diminuent d'heure en heure.
Merci Henri de Laguérie, correspondant d'Europe 1 en Espagne en direct. Signalons également que 15 enfants sont morts de froid et de malnutrition en Syrie. Il s'agit d'enfants déplacés dans le sud dans un camp. L'UNICEF précise que 13 d'entre eux avaient moins d'un an l'hiver là-bas et cette année particulièrement tenace. Et puis, on apprend que Laurent Gbagbo est acquitté de crimes contre l'humanité par la Cour pénale internationale de La Haye. Ce dernier a donc été remis en liberté.
Il est 12h48. Europe 1. Restez avec nous dans un instant. Le hand, les Français avec ou sans Karabatic ce soir. Et l'interview exclusive pour Europe 1 de Thiago Silva. A tout de suite.
Il est 12h51 sur Europe 1, la suite du journal avec Pierre de Villeneuve et Raphaël Duchemin.
Le sport, Pierre, avec le handball, l'équipe de France poursuit son petit bonhomme de chemin.
Ouais, les Bleus ont en effet remporté leur troisième succès en trois manches, hier contre la Corée, large victoire, 34-23. Ce soir, match contre l'Allemagne. Christophe Lamar, vous êtes notre envoyé spécial à Berlin. La grande question tourne autour de Nicolas Karabatic, jouera pas ? Christophe Lamar.
Dinard a fait mine d'entretenir le suspense hier soir, mais la réponse est tombée ce matin. Nicolas Karabatic regardera ce France-Allemagne depuis les tribunes. Le coup d'intox a failli marcher. D'ailleurs, les Allemands n'ont peut-être pas si bien dormi que cela. L'arrivée de la star française à Berlin a jeté un trouble dans le camp d'en face. Avec ou sans lui, la France n'est évidemment pas la même. C'est une évidence. Il a donc fallu réinventer les schémas de jeu, les enclenchements. On ne va pas dire que Karabatic les obsédait, mais on n'en était pas loin jusqu'à ce matin. Donc, il faut savoir que chaque sélection peut effectuer trois changements au sein de son effectif sur l'ensemble du tournoi. En clair, elle peut remplacer l'un de ses 16 joueurs quand bon lui semble, à une condition. Ce changement doit être communiqué officiellement à la Fédération internationale à 9h du matin, le jour du match. Or, sur la liste de ce mardi, Nicolas Karabatic ne figure pas parmi les 16 Français appelé à disputer le choc de ce premier tour.
Merci Christophe Lamar. À Berlin pour Europe 1, à l'Open d'Australie, on suivra Lucas Pouille. Le nordiste a remporté sa première victoire à Melbourne. Ils sont 5 Français à être qualifiés pour le deuxième tour.
Et puis dites-moi, c'est pas tous les jours que Thiago Silva prend la parole en interview.
Ouais, le capitaine du PSG s'est entretenu avec Nikos Aliagas en duplex du Qatar où les Parisiens font la promotion de leur club.
C'est pas trop difficile de mettre tous les deux à jouer ensemble. Ils sont deux joueurs très grande qualité, des joueurs très intelligents. Kylian, il vient de faire 20 ans, mais ça semble qu'il avait déjà 27, 28 ans. C'est un mec qui vraiment il a une grande qualité pour être numéro 1 du monde aussi comme Neymar. Et je crois que tous les deux ensemble, pour faire des choses incroyables.
Le roi Pelé, votre compatriote, aime beaucoup Kylian Mbappé, il l'a salué. Comment est-ce qu'on devient un mythe dans le foot, Thiago ?
De faire un peu presque comme l'a fait Pelé. Pour moi, Neymar, Kylian, il peut venir comme Pelé, par exemple. S'il continue comme ça, avec cette progression, avec cette humidité-là, je crois que c'est possible.
Voilà, Thiago Silva, le capitaine du PSG, avec Nikos Aliagas. Et puis, je vous signale en foot aussi un match en retard de Ligue 1 qui se joue ce soir à 19h, Angers contre Bordeaux.
Merci Pierre, à tout de suite pour l'essentiel de l'actualité.
Il est 12h54, Europe 1.
Restez avec nous, on va s'intéresser à notre isolation pour ne pas faire grimper la facture. Des Français, vous allez le voir, se sont creusés les méninges pour nous proposer des solutions qui nous permettent d'avoir évidemment plus chaud, mais sans se ruiner. C'est ça aussi, la France qui bouge. On vous attend, 39-21.
midi 30, 14h.
Raphaël Duchemin sur Europe 1.
Europe 1. Il est 12h57 sur Europe 1 et c'est l'heure de la météo, Raphaël Duchemin.
Oui, avec Elena Morna, on a une chape nuageuse qui est assez tenace, hein, dites-moi, sur le nord et le nord de la Loire notamment. Ouais.
Ils sont indélogeables, Raphaël, ces nuages qui chapeautent le nord de la Loire depuis début janvier. Alors on aura quand même quelques éclaircies cet après-midi entre le Haut-Rhin et la Franche-Comté. Une ou deux trouées entre les pays de la Loire, le Poitou-Charentes, le Centre et l'Auvergne. Alors plus au sud, le ciel va franchement s'éclaircir sur l'Aquitaine. Bon, localement, on aura des brouillards tenaces sur le Pays Basque. Ciel bleu aussi près de la Méditerranée jusqu'aux Alpes. Et enfin, les derniers souffles de Mistral. Alors les températures, elles sont bien douces. De 4 degrés à Belfort cet après-midi jusqu'à 16 à Perpignan, à Toulon ou encore à Bastia. 7 degrés à Clermont-Ferrand. On aura 9 degrés cet après-midi à Paris, à Lille ainsi qu'au Grand Bourg-Thorold. 10 dans l'heure, 10 degrés à Quimper et Bordeaux, 14 à 16 près de la Méditerranée.
Dites-moi, vous avez une petite baguette magique pour chasser les nuages, là, pour demain, par exemple?
J'adorerais, mais non, je n'ai pas cette baguette qui va chasser les nuages sur le nord. Et même, j'ai mieux, j'ai des petites pluies qui vont arriver sur le nord-ouest. Et puis, ça va bouger aussi côté température. Apprêtez-vous à avoir beaucoup plus frais à partir de demain.
Merci, Elena Morna.